Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Scrute le monde pour y déceler des exemples d'ordre. La structure d'un cristal, les pétales d'une marguerite, le vol des oiseaux migrateurs, le mouvement de l'univers en expansion, mais aussi le génome humain ou le dessin de la côte britannique. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, Catherine Bréchignac raconte les différentes formes d'ordre en mêlant avec bonheur l'histoire, les sciences et même la philosophie. La physicienne est ancienne directrice et présidente du CNRS, membre de l'Académie des sciences. Elle explique comment l'ordre peut être mathématique, dynamique, irrégulier, surprenant parfois. Comment le désordre peut engendrer l'ordre? Ce petit livre limpide s'appelle « La sardine et le diamant ». Il est paru aux éditions du Cherche Midi. Bonjour Catherine Bréchignac.
Bonjour Priscille.
Alors pour commencer, je voulais savoir ce qui vous avait poussé à écrire ce livre. Et je crois que c'est finalement une définition de l'ordre que nous avons aujourd'hui qui vous semble fausse.
Oui, alors j'ai voulu écrire ce livre parce que tout d'abord l'ordre fascine. L'ordre fascine, on voit les choses qui sont bien ordonnées, bien alignées, et on se limite à l'observation de l'ordre. On ne va pas chercher la cause de l'ordre. Et l'observation de l'ordre n'est absolument pas, évidemment liée à sa cause, mais les causes peuvent être très différentes pour donner la même observation. Et donc, c'est la réflexion sur l'ordre. Et au fond, quand on pousse assez loin cette analyse, on se rend compte qu'il n'y a pas un seul ordre, mais plusieurs ordres, même un certain nombre d'ordres, et que le désordre, c'est une petite perturbation de cet ordre et de la cause qui engendre cet ordre. Voilà ce qui m'a un peu poussée à écrire ce livre sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on voit.
Vous nous parlez beaucoup des anciens, en particulier des Grecs. À chaque fois, pour chaque forme d'ordre, vous remontez un peu aux origines. Pourquoi est-ce que cela vous semblait important de rappeler tous ses prédécesseurs?
Tout d'abord parce que je me suis intéressée à la pensée. Comment pense-t-on, pourquoi pense-t-on et quelle est la structuration de notre pensée et au fond l'ordre dans notre pensée. Et quand on remarque ça, on voit que quand la Grèce est sortie de son ère obscure et qu'elle a commencé à prendre l'alphabet phénicien pour écrire, le transformer en alphabet grec plus adapté à sa langue, on voit que l'écriture et donc l'ordre des mots a fait que les philosophes grecs sont arrivés, avec les mathématiciens d'ailleurs en même temps, et qui sont aussi une autre forme de pensée, et qu'ils ont commencé à dire que la nature était peut-être explicable. Avant, la nature nous était donnée, c'était Dieu qui donne Mais là, c'était de se poser la question et de se dire, la nature est peut-être explicable, et donc à regarder la nature différemment, et à regarder cet ordre qui existe dans la nature. Et quand je parle, par exemple, de Ramsès, de Séti, en fait, Séti Ier, son fils Ramsès, qui regarde les oiseaux migrateurs passer, il s'imagine quelque chose de divin derrière cet ordre. Comment se fait-il que les oiseaux se mettent dans cet ordre aussi parfait? Et au fond, quand on réfléchit un peu et qu'on a compris, on fait des expériences absolument extraordinaires avec des capteurs pour essayer de comprendre pour comment se mettent les oiseaux. Et en fait, on se rend compte que les oiseaux se mettent dans cet ordre-là parce qu'ils minimisent leur effort. Et minimisent leur effort, non pas individuellement, oui, certes, mais aussi collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe ensemble et vole avec cet angle entre les deux branches du vol des oiseaux migrateurs en vol en V, et c'est parce qu'il minimise complètement l'énergie qu'il doit fournir.
Ces oiseaux nous mettent sur la piste de la première forme d'ordre dont vous parlez, qui sont les systèmes auto-organisés. Il y a aussi les poissons et notamment les sardines qui ont des comportements très intéressants.
Oui, alors il n'y a pas du tout que cet ordre-là qui est un ordre hiérarchisé avec un chef de file. Il y a aussi des ordres auto-organisés qui semblent très labiles, très flexibles et qui est l'auto-organisation. Et là, c'est des bandes sardines qui par millions se déplacent toutes ensemble et vont sur des milliers de kilomètres pour aller d'un point à un autre. Donc ces sardines, exactement, d'ailleurs c'est la même chose avec les étourneaux, qui sont eux des oiseaux bien sûr, mais qui ont aussi ce même comportement. Et on a compris qu'en fait, cette organisation qui était une auto-organisation, il n'y a pas de chef dans cet ensemble, d'ailleurs la forme est très différente. Ce qui compte, c'est les perturbations locales. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, une sardine qui, parce qu'elle voit un poisson qui n'est pas bon ou quelque chose qui ne va pas, qui risque de perturber l'ensemble, commence à ne pas suivre le groupe. Elle bouge un peu. Ses voisines, s'il y en a deux ou trois qui font la même chose qu'elle, alors ensuite, la propagation de cette information se transmet dans tout le banc de sardines. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que les sardines, elles gardent toujours la même distance par rapport à leurs voisines. Et en fait, en discutant avec des chercheurs qui s'intéressent justement à ces poissons, ils nous disent que sur les flancs des sardines, vous avez des tas de petits capteurs qui permettent de garder des distances absolument constantes entre eux. Alors, ce qui est assez extraordinaire, ce qui intéresse énormément les scientifiques, c'est de voir que la propagation d'une information de quelques sardines sur l'ensemble se fait sans déformation. Alors que si vous prenez une file de gens dans une queue pour attendre quelque part et vous commencez à semer un peu la perturbation quelque part, eh bien, au bout de 10, je dirais une dizaine de personnes, la perturbation est complètement déformée parce que chacun a voulu rajouter son grain de sel. Et donc, du coup, au bout du compte, on n'a plus du tout la même information qu'on avait au début, ce qui n'existe pas chez les poissons.
Vous évoquez aussi l'ordre mathématique, les suites de nombres, les nombres premiers, par exemple. Et vous vous attaquez au nombre d'or qui, vous le dites, descend un peu de son piédestal parce qu'il était enrobé d'une sorte d'aura mystique. Et finalement, on découvre autre chose derrière.
Oui, alors on pensait au départ que le nombre d'or, que tout était organisé et que l'organisation venait du créateur et que ce nombre d'or était la chose la plus fascinante qui puisse exister. On voulait tous se rapprocher au nombre d'or. Les anciens, d'ailleurs, voulaient se rapprocher le plus possible de ce nombre d'or. Et en fait, on se rend compte que ce nombre d'or vient d'une suite qui s'appelle la suite de Fibonacci et qui est une suite tout à fait simple où chaque élément de la suite est la somme des deux nombres qui précèdent dans la suite. Et ça vient d'une histoire tout à fait amusante que Fibonacci raconte dans son livre en disant si vous avez un couple de lapins et qu'au bout du premier mois, il ne se reproduit pas. Au deuxième mois, il se reproduit et donne un couple de lapins, lequel couple de lapins ne se reproduit pas, mais le premier se reproduit, etc. Vous voyez très vite que vous arrivez à converger sur des nombres et que le rapport entre ces nombres vous donne le nombre d'or. Donc en fait, on se rend compte que cette propriété mathématique sort vraiment de calculs mathématiques. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est que les proportions, quand vous prenez un rectangle et que vous mettez le rapport de la longueur sur la largeur égale au nombre d'or, vous avez l'impression que ce rectangle est magnifiquement beau. Il y a un côté, une beauté derrière ce rectangle qui fascine. Donc, dans un sens, on retrouve un tout petit peu ce qu'on pensait au début. Bien sûr, c'est pas quelque chose de mystérieux, mais c'est quand même quelque chose de beau.
Et c'est lié à une forme de croissance dans la nature. On parlait tout à l'heure des pétales de la marguerite. On peut aussi parler de la coquille de l'escargot qui se déploie selon son nombre d'or.
Oui, alors ensuite, vous avez les pétales de la marguerite, par exemple, quand vous les comptez, vous voyez qu'ils sont en général dans l'ordre de la suite de Fibonacci. Et donc, ce qui vient du fait, en fait, que c'est une organisation qui, à la fois, permet de minimiser l'espace et d'optimiser la surface d'exposition au soleil.
Vous parlez de l'univers qui a fasciné les hommes, qui ont cherché à donner des noms aux étoiles depuis longtemps, d'une première révolution au moment de l'avènement de la science moderne, avec de grands noms comme Galilée, comme Newton. Et vous dites que nous vivons finalement comme une deuxième révolution, de voir cet ordre sous une forme dynamique aujourd'hui.
Oui. Alors, je disais tout à l'heure que les anciens, les philosophes et les mathématiciens anciens avaient pensé que la nature était explicable. Et au fond, le premier à dire que la nature s'explique par des nombres mathématiques, ça a été Galilée, où il a essayé de mettre des lois mathématiques derrière les observations qu'il faisait, en particulier dans la chute des corps. Et donc, petit à petit, on est arrivé à faire des théories qui sont au départ un peu grossières, puis ensuite qui s'affinent et qui s'affinent de plus en plus. Alors, dans la question de l'univers, le problème n'était pas celui-là, il était de regarder l'univers, et on avait l'impression que l'univers, c'était un univers fixe, que toutes les étoiles étaient reliées les unes aux autres. Bien sûr, il bougeait un peu entre l'été et l'hiver. Et puis, il y avait des planètes que les Grecs avaient trouvées, qu'ils appelaient planètes, qui voulaient dire astres mouvants, enfin, avec des mouvements aléatoires. Et donc, ils avaient vu ces mouvements. Mais c'était tout. Et petit à petit, en regardant de plus en plus loin, en essayant de comprendre cet ordre, on s'est rendu compte que non seulement l'univers n'était pas une sphère fixe, mais une sphère qui pouvait bouger, qui avait des étoiles qui pouvaient arriver, d'autres qui pouvaient s'en aller. Parce que, et puis ensuite, vous aviez un univers qui avait une profondeur. Et on est allé après chercher de plus en plus loin cette profondeur pour se rendre compte qu'au bout du compte, c'est un peu comme des nuages dans le ciel qui vont se déformer. Les constellations n'ont pas de sens réel.
Et pouvez-vous nous parler de tout ce qui est énergie noire, matière noire, qui préoccupe beaucoup les chercheurs aujourd'hui?
Alors, oui. Donc,
est-ce qu'il y a une forme d'ordre là-dedans?
On peut toujours trouver de l'ordre partout, parce que de toute façon, l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tellement ce qu'on voit, c'est surtout la nature qui est derrière. Et qu'est-ce qui est derrière l'ordre? C'est l'interaction entre les éléments qui s'organisent. Donc, si vous n'avez pas d'ordre du tout, si vous n'avez pas d'interaction, si vous prenez des livres que vous les mettez sur la bibliothèque, vous avez un ordre qui est tout à fait changeable par n'importe qui. Mais dans l'univers, c'est pas vrai. Et dans toutes les interactions qui sont entre des particules, c'est pas vrai du tout. Alors, en regardant justement cette force gravitationnelle qui fait qu'il y a de l'ordre dans l'univers, c'est-à-dire que vous voyez les étoiles qui tournent autour du Soleil, elles sont dans le plan de l'écliptique, vous voyez les galaxies qui sont des galaxies spirales, vous voyez, il y a un ordre qui se met quelque part qui est dû à ces forces gravitationnelles. Donc on a commencé à s'intéresser aux forces gravitationnelles avec Newton, et puis ça a progressé, et pour se rendre compte au bout d'un moment que les forces gravitationnelles ne correspondaient pas à la masse que l'on voyait. La masse des étoiles que l'on voyait, elle était beaucoup plus forte. Donc on a été obligé d'inventer une matière que l'on ne voit pas, et on l'a appelée matière noire, qui tient un peu ensemble les étoiles, comme lorsqu'elles bougent, comme si c'est la force qui fait bouger les étoiles est tellement grande que c'est comme si vous aviez un manège qui tourne extrêmement vite, toutes les personnes partiraient dans tous les sens. Or là, elles restent ensemble, elles restent ordonnées, et c'est parce qu'il manque quelque chose, et on l'a appelé la matière noire.
Dans votre chapitre sur l'univers, vous parlez d'un modèle, celui de Voronoi, qui sert aujourd'hui au réseau téléphonique. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe ?
Ah oui, alors ça, c'est un autre ordre. C'est l'ordre qui est dans les réseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un réseau, dans les réseaux téléphoniques que vous avez aujourd'hui ? Terrestre, bien sûr. Après, si vous voulez, on parlera des réseaux satellitaires. Mais le réseau terrestre, c'est la manière suivante. Vous avez des antennes qui sont positionnées un peu partout. Et ces antennes et votre téléphone portable se connectent à l'antenne la plus proche. Et donc, chaque antenne a un rayon qui lui est propre, sur lequel elle va émettre et recevoir. Et quand vous prenez des points que vous mettez un peu partout au hasard sur une feuille de papier et que vous essayez de regarder quel est l'espace, je dirais, qui est caractéristique, qui entoure ce point, eh bien, vous définissez des polynômes. Parce qu'entre deux points, vous pouvez définir la médiatrice et tracer ainsi des polynômes. Et ces polynômes sont, c'est Voronoi qui les a fait. En fait, Descartes avait aussi pensé à cette histoire, mais pas du tout pour les réseaux téléphoniques. Voronoi non plus, d'ailleurs, c'est arrivé plus tard. Et donc, on a tout, quand vous vous promenez dans une ville, ici dans Paris, eh bien, vous pouvez imaginer que vous avez une antenne qui sont positionnées un peu en fonction des immeubles et des choses comme ça, que vous êtes obligé de positionner à des endroits qui ne sont pas toujours bien équidistants. Donc, vous faites une superficie, vous délimitez votre surface, votre plan par des polynômes de Voronoi. Et chaque antenne est, je dirais, le chef du polynôme, du polygone.
Le système des satellites est différent.
Oui, le système des satellites est un peu différent parce que là, vous avez c'est les satellites qui tournent autour de la Terre, donc vous avez des ceintures de satellites dont les trajectoires, évidemment, les satellites vont tourner d'autant plus vite qu'ils vont être proches de la Terre et d'autant moins vite qu'ils vont être éloignés. Et du coup, vous avez à avoir des connexions satellitaires. Mais il y a un ordre aussi derrière, un ordre plus dynamique, mais il y a un ordre derrière aussi.
Cette passion de l'ordre a poussé les scientifiques à inventer de nombreuses classifications. Cela a été une véritable passion. Et nous allons parler maintenant des cristaux. On a défini 7 formes cristallines. Comment est-on arrivé à cette conclusion-là ?
Alors, on est arrivé à cette conclusion-là. Tout d'abord, il faut voir que les atomes dans les cristaux sont aussi en interaction. C'est des interactions entre électrons, c'est des interactions électromagnétiques qui font que les atomes, les électrons qui sont autour des noyaux, eh bien, interagissent ensemble et donc vont se positionner avec les forces cristallines, qui vont donner les forces cristallines. Donc, ensuite, il va y avoir des contraintes qui sont des contraintes liées à l'espace. Vous allez vouloir remplir l'espace avec ces forces, mais d'un autre côté, en compactant, en essayant de perdre le moins de place. Et quand vous faites ça, que vous commencez à réfléchir, à positionner, eh bien, vous allez avoir, c'est quelqu'un qui s'appelle Bravais, qui a mis en place, qui a expliquer combien on pouvait trouver de systèmes cristallins et en mettant les contraintes qu'il fallait, et il a donné tous les systèmes que l'on pouvait trouver. Alors après, vous avez des petites variantes, mais en fait, donc voilà, donc les cristaux sont suivant certains modèles.
Justement, pouvez-vous nous parler des défauts qui peuvent exister dans ces modèles, sont-ils parfaits ?
Oui, alors c'est ça, surtout l'histoire qui est amusante, c'est que ces modèles, et par exemple, vous regardez des pierres précieuses, c'est des atomes qui sont, vous imaginez, des atomes qui sont tous organisés, là, des milliards de milliards d'atomes, parce que c'est des quantités phénoménales, qui sont tous les uns à côté des autres, hein, parfaitement bien dans un ordre parfait. Eh bien, en général, les cristaux, si vous regardez un cristal de diamant, il n'a pas de couleur, il est parfait et tout est parfait. Mais c'est trop parfait presque. Et quand vous avez une petite lacune ou quand vous avez un autre atome qui est venu se glisser à l'intérieur, qui vous fait un défaut, eh bien, vous pouvez avoir des couleurs absolument spectaculaires qui sont les couleurs des cristaux. Donc, en fond, pour reprendre la phrase que disait en boutade un mathématicien de l'époque, il disait « les cristaux sont comme les hommes, ce qui est intéressant, ce sont leurs défauts ».
Il y a parfois des modèles que nous pensions impossible et que l'observation nous révèle. Je pense à l'icosaèdre qui a été observé il y a finalement seulement quelques décennies.
Non, il a été observé il y a très très longtemps, l'icosaèdre. En fait, Platon avait déjà, les Grecs avaient déjà trouvé l'icosaèdre, mais le problème de l'icosaèdre est une question intéressante, c'est-à-dire que vous avez de l'ordre qui a très grande distance, et c'est les réseaux de Bravais, et puis vous avez de l'ordre des systèmes petits et compacts. Et ces systèmes-là n'ont pas nécessairement le même ordre que les cristaux qui peuvent être considérés comme extrêmement grands. Et cet icosaèdre, qui est donc une double pyramide qui est tout à fait magnifique, et il existe que dans les systèmes finis. Donc, vous avez un ordre des systèmes infinis et un ordre des systèmes finis avec les mêmes forces, en fait.
À la fin de votre livre, vous développez longuement l'ordre fractal, qui est un ordre un peu hybride entre le régulier, l'irrégulier. Qu'est-ce que c'est que cet ordre étonnant ?
Alors, l'ordre fractal, j'ai beaucoup travaillé ça dans mon domaine de recherche, donc c'est un point qui m'est extrêmement fort et que je trouve tout à fait magnifique. En fait, vient de la chose suivante, quand vous avez si vous prenez des boules et que vous les lancez et que vous les laissez se propager, quand elles cognent, alors elles ont des mouvements aléatoires, des mouvements browniens, et à cause de leur mouvement sur la surface. Et quand elles touchent une autre, elles se collent. Donc vous pouvez construire comme ça des objets où vous envoyez une pichenette de quelque chose, se colle. Et donc quand vous regardez cette façon de construire des systèmes, et vous obtenez un ordre qui est un ordre dynamique, qui est un ordre qui n'est pas l'ordre minimum qui correspondrait à l'énergie minimum pour obtenir cet ordre-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas les atomes. Si vous prenez des atomes, par exemple, ou des molécules d'eau sur la glace quand vous avez l'hiver, elles seraient bien positionnées si on leur laisse le temps de se positionner. Mais si on les laisse bouger et qu'on les fige au moment où elles s'arrêtent de bouger, mais elles sont dans un système figé, alors là, vous avez une construction dendritique qui donne ces flocons de neige, qui donne ces fractales avec des dimensions qui sont ni celles d'un objet compact, ni celles qui n'auraient pas d'interaction du tout. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ces objets fractales, vous les retrouvez absolument partout parce que ce sont des formes d'équilibre de croissance. Ce n'est pas des formes d'équilibre minimal, ce sont des formes d'équilibre de croissance. Alors, vous les retrouvez où ? Et surtout dans la nature. Donc, vous avez dans les arbres, dans les choux-fleurs, dans tout ce qui est, qui a ce côté un peu dendritique et un peu dentelle, qui fait que ce sont les fractales. Et vous avez ça aussi. C'est Mandelbrot qui a été un des premiers à essayer de mettre des nombres sur ces fractales et qui a montré que les côtes de Bretagne étaient des fractales.
C'est tout à fait passionnant. Vous parliez aussi du réseau hydrographique qui pouvait
Exactement.
Être assimilé
à ce fractal,
à ce genre de modèle. Oui. Mais si nous comprenons bien, en fait, la notion de temps est extrêmement importante pour l'ordre fractal.
Oui, la notion de temps est fondamentale dans l'ordre fractal. On ne laisse pas au système le temps de se stabiliser, mais tout d'un coup, il se met dans une position. Et pour retrouver une position d'équilibre, il faudrait tout remélanger et on n'a pas l'énergie nécessaire pour le faire. Et donc, on a cet ordre fractal assez spectaculaire.
L'une de vos convictions, c'est que du désordre peut naître une forme d'ordre.
Absolument.
Vous creusez aussi la question de l'ADN qui se situe aussi un peu à la frontière de l'ordre et du désordre parce que c'est à cause de cette forme d'équilibre qu'il peut y avoir les mutations génétiques.
Oui, alors, en fait, on s'est rendu compte que on pensait, quand on au niveau de la descendance, que on racontait l'histoire, c'est la chair de ma chair, c'est le sang de mon sang. On s'imaginait toujours qu'on transférait de notre matière vivante à nos enfants. En fait, on s'imaginait toujours qu'on leur transférait une partie de notre chair à nous. Et au fond, pas du tout. On leur transmet de l'ordre, uniquement de l'ordre. C'est-à-dire l'ordre de notre ADN. Autrement dit, l'ADN est une molécule, une double hélice, qui est formée uniquement de 5 éléments différents, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et un peu de phosphore, et qui se met en double chaîne. Et sur ces 5 éléments qui sont comme 5 lettres de l'alphabet, vous pouvez former des tas de molécules et les organiser. Et c'est cette organisation qui est propre à chacun d'entre nous, et qui fait que vous la transférez en partie à vos enfants.
Quand vous étudiez toutes ces différentes sortes d'ordres qui sont multiples, on le voit bien, est-ce que vous arrivez à en tirer une définition commune ? Je sais que tout ce qui est épistémologie vous parle beaucoup. Pour vous, quelle serait aujourd'hui une définition contemporaine de l'ordre ?
Alors, tout d'abord, je ne dirais pas qu'il y a une définition de l'ordre. Il y a un désordre, un certain nombre d'ordres, un certain nombre de formes ordonnées, en fait. Et que la forme, comme je le disais au début, n'est que l'aboutissement d'une cause. Et donc, lorsque l'on regarde l'ordre d'un système, ce n'est absolument pas suffisant. Il faut aller chercher derrière les causes de cet ordre. Et c'est pour ça que les causes peuvent être multiples. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Donc, en fait, je crois qu'il faut changer un peu notre vision des choses, ne pas s'intéresser à l'ordre en tant que ordonnancement, si je puis dire, mais aller chercher derrière le pourquoi de l'ordre. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait faire avec les humains, parce que justement, on a beaucoup de mal à mettre les gens en ordre. Et pourquoi ? Parce qu'on ne va pas chercher l'interaction qu'il y a entre les gens. On va imposer de l'ordre a priori. Et imposer de l'ordre a priori n'est jamais bon, parce que l'ordre naturel revient toujours au galop.
Vous préconisez même une forme d'ordre fractal pour notre société.
Oui, je pense que l'ordre fractal, c'est l'ordre extraordinaire pour demain, parce que c'est lui qui permet... D'ailleurs, les réseaux de communication sont tous des réseaux fractales maintenant. Vous avez des réseaux qui sont... les réseaux vont se superposer. Quand on va... Là, on est dans la 4G, on ira bientôt dans la 5G, même on a déjà commencé, qui permettra une sécurité bien meilleure, d'ailleurs, de la communication, qui sera surtout utile pour l'industrie. Mais c'est des réseaux qui sont complètement fractales, parce que vous avez besoin... Le fractal a cet avantage, c'est que l'ordre local est le même que l'ordre à grande distance, mais il est mouvant, il permet de se déplacer dans un sens ou dans un autre. Comme on disait, les réseaux hydrauliques sont des réseaux qui sont fractales. Les réseaux, tous les réseaux électriques, tous les réseaux qu'on a construits. Et je pense que aujourd'hui, nos sociétés qui vivent dans cet univers de réseaux, il faut qu'elles se mettent en phase avec un peu cette organisation fractale des choses. Et je pense que c'est l'ordre de demain.
Eh bien, un grand merci Catherine Bréchignac de nous avoir permis de comprendre toute cette diversité des ordres. Je rappelle le titre de votre livre, La sardine et le diamant, de l'utilité de l'ordre et du désordre. C'est aux éditions du Cherche-Midi. À bientôt.
À bientôt.